En conclusion de cette journée sur le thème de la violence, j'aimerais revenir sur un verset qui a été souvent cité dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 39, et puis tâcher brièvement de tirer quelques pistes de réflexion pratique. Donc, je vous le rappelle, plusieurs intervenants y ont fait allusion. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Faut-il toujours tendre l'autre joue? La question se pose, et dans les interventions, on a senti que, en tout cas dans d'autres groupes de réflexion, c'était aussi une question qui se posait dans la pratique, parce que, comme souvent ici, les paroles de Jésus surprennent, pour ne pas dire dérangent. En effet, ces paroles semblent remettre en question le principe de rétribution exacte, hein, œil pour œil, dent pour dent, loi dont on a bien vu et entendu qu'il s'agissait d'une loi qui assurait la justice de manière équitable, en évitant les excès de la vengeance, comme je crois que c'est Charles-Éric de Saint-Germain qui l'a aussi mentionné dans son intervention. Et quand Jésus dit de ne pas résister aux méchants, là aussi la formule surprend, puisque dans la Bible, il est plutôt question de ne pas résister à Dieu, mais de résister au mal, comme Jésus lui-même l'a fait au moment de la tentation dans le désert. Alors on comprend vite dans les exemples que Jésus donne dans le contexte que le mal, le mauvais ici ne désigne pas le diable, mais bien l'adversaire, celui qui nous veut du mal, comme le traduit d'ailleurs la Bible en la Bible de la semeur, à commencer par celui qui nous frapperait sur la joue. On peut aussi noter, et cela a été dit dans la journée, que si la loi du talion s'applique au cadre juridique en vigueur dans une société comme celle régie par les prescriptions de l'Ancien Testament et qui demeure le socle de la société en général, l'exhortation de Jésus ici dans le Sermon sur la montagne concerne davantage les relations du disciple appelé à vivre ici-bas selon l'éthique du royaume de Dieu. Jésus ne vient pas abolir un principe établi dans la société, mais, cela a été aussi dit, ajouter la différence que devrait apporter le disciple du Christ qui, tout en étant dans ce monde, n'est plus de ce monde. Donc cette tension qui apparaît. Alors en même temps, on peut revenir au texte et se poser la question, est-ce que Jésus prêcherait la non-violence? C'est ce que propose, je crois, Tolstoï à partir de ce passage de l'Évangile, ou encore peut-être la passivité. Et là, je citerai John Stott qui, dans son commentaire du Sermon sur la montagne, dit que Jésus attend plutôt de ses disciples qu'ils agissent sous l'inspiration de la miséricorde et non de la rétribution, en renonçant à la vengeance au point de courir le risque de souffrir. Et Jésus est d'ailleurs le premier à nous montrer l'exemple, ou en tout cas à nous montrer le chemin au moment de sa passion. On n'a pas eu l'occasion tellement de développer sur le film sur la passion du Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, faisant référence au troisième, enfin au chant du serviteur, le troisième, rapporte ces paroles: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Et en effet, les évangiles nous montrent comment Jésus a subi les crachats, les coups, les insultes, les violences sans répondre. On ne peut séparer l'enseignement de Jésus, en particulier dans le Sermon sur la montagne, de sa vie, et c'est dans le contexte de sa vie qu'il nous faut non seulement, me semble-t-il, comprendre, mais aussi vivre et mettre en pratique cet enseignement. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre, et dans son intervention, le professeur Émile Nicole a mentionné ce passage, cette épître qu'il adresse à des chrétiens persécutés en raison de leur foi, l'apôtre invite à suivre les traces de Jésus qui, injurié, ne ripostait pas par l'injure et qui, dans la souffrance, ne proférait pas d'insultes, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est donc bien à la suite du Christ que nous sommes appelés à vivre l'exigence du royaume. Et c'est, je pense, pour nous une source d'encouragement, parce que sinon l'enseignement de Jésus, en particulier dans le sermon sur la montagne, nous semblerait sans doute inaccessible. Or Jésus nous montre une éthique, il ne nous montre pas une éthique désincarnée, mais une éthique vécue, de sorte que l'exigence du royaume devient réalisable parce qu'elle trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Car il s'agit bien pour le disciple du Christ d'incarner l'exigence de la grâce dans le quotidien. Les exemples que Jésus cite dans les versets qui suivent celui que j'ai rappelé ne sont ni fictifs ni hyperboliques, comme c'est parfois le cas dans certaines images de ce sermon sur la montagne, mais bien réels. La gifle sur la joue droite était un affront, une provocation qui, aujourd'hui encore, appellerait une réponse immédiate, voire instinctive. L'exemple que Jésus cite ensuite, hein, si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement, correspond tout à fait à la mentalité procédurière qui avait cours dans l'Antiquité. Quant au troisième exemple, dans lequel Jésus exhorte à faire 2000, soit environ 3 kilomètres, celui qui nous forcerait à en faire un, il fait référence à la pratique des soldats ou des fonctionnaires qui pouvaient réquisitionner quelqu'un pour l'obliger à porter un fardeau sur une certaine distance ou tout simplement pour qu'il l'accompagne à titre de guide ou d'otage. C'est donc bien dans le concret de la vie de tous les jours, dans le quotidien, là où la frustration, la colère, l'injustice engendre souvent la violence, que le Christ nous invite à adopter une attitude radicalement autre, qui dépasse celle par ailleurs juste de la rétribution exacte, on pourrait dire du donnant-donnant, œil pour œil, dent pour dent. Car au-delà même du principe de non-rétorsion, l'exigence de la grâce se manifeste surtout ici, me semble-t-il, par le don qui est fait à l'adversaire. Au lieu de riposter, Jésus demande de tendre l'autre joue. Au lieu de saisir la justice pour une chemise, il demande non seulement de la laisser, mais aussi de donner son vêtement. Au lieu de résister à celui qui nous réquisitionnerait pour un mille, il demande d'en faire deux. C'est donc le principe de la grâce qui prévaut, le principe du pardon qui donne par-dessus l'offense et que Jésus résume à la fin du chapitre 5 par ce commandement, là aussi qu'on a eu l'occasion de rappeler aujourd'hui, à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Et l'apôtre Paul reprend cet enseignement dans Romains 12, versets 17 à 21, en ces termes, « Ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Ne pas se laisser dominé par le mal, mais au contraire, répondre au mal par le bien. Ce qui nous est demandé ici, et là on est dans le concret de l'éthique chrétienne, hein, ça n'est pas simplement de ne pas faire le mal, mais de remplacer le mal par le bien. Ce qui est sans doute la meilleure et peut-être la seule manière de l'extirper véritablement. Alors parmi les exemples qui ont voulu opposer l'amour à la haine au cours de l'histoire de l'Église, en particulier de l'histoire de l'Église récente, on peut citer Martin Luther King, alors qu'il était en prison dans l'État de Géorgie, il a écrit une prédication intitulée « Aimez vos ennemis », dans laquelle il dit que l'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Et on sait comment il a appliqué ce principe dans un contexte de racisme aux États-Unis et comment il l'a payé de sa vie. C'est d'abord dans le cœur, et cela aussi nous a été rappelé aujourd'hui, et j'y reviens parce que je crois que c'est là où ça se passe d'abord, hein. C'est d'abord dans le cœur que la violence a besoin d'être vaincu, et on sait que le sermon sur la montagne insiste, Jésus insiste sur l'intériorité du commandement. C'est là, dans notre être intérieur, que la lumière de l'Évangile doit d'abord faire son œuvre, afin que nous soyons, à notre tour, lumière du monde par notre attitude, par notre conduite, une conduite qui incarne et démontre notre appartenance au royaume des cieux. Comme Jésus nous y invite au début de son enseignement, au début du chapitre 5, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos belles œuvres. Et dans son intervention, Jean-Baptiste Sépari nous a montré comment, dans ce domaine en particulier des images, nous sommes amenés à user de discernement, de sagesse, pour savoir comment agir et comment faire face à la situation. En demandant de tendre l'autre joue, Jésus n'abolit pas la loi du talion, il l'approfondit, comme l'a souligné le professeur Émile Nicole dans son intervention. Il nous invite à aller plus loin dans le commandement de Dieu, comme Jésus lui-même l'indique au début du chapitre 5, enfin, au verset 20. « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Comment satisfaire à cette exigence si ce n'est en entrant de plein pied dans la démarche du disciple? Cette démarche n'est pas à confondre avec la soumission servile de celui qui se laisse faire sans rien dire ou qui accepte l'arbitraire sans regimber. C'est plutôt, me semble-t-il, l'attitude ou la démarche humble mais déterminée de celui qui cherche à faire bouger les lignes en refusant de céder à la tentation de la riposte, à l'instinct de vengeance, en invitant l'autre, par le don de soi, à changer son propre regard sur lui-même et sur son prochain. L'enseignement de Jésus nous exhorte à aller jusqu'au bout du commandement de Dieu, à le mettre en pratique de manière radicale. Et c'est possible. C'est possible en raison de l'Évangile, la bonne nouvelle, qui nous enseigne trois choses qui, là aussi, ont été rappelées au cours de la journée. D'abord, c'est que notre justice est reçue par grâce, et non pas par nos efforts ou nos mérites. Moyen donné par Dieu, comme le professeur Henri Blocher nous l'a rappelé. Nous n'avons donc rien à prouver. Ensuite, c'est Dieu qui agit en nous par son esprit. C'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, pour reprendre ici la parole de Paul dans Philippiens 2. Nous avons donc à le laisser agir en nous. Et enfin, un jour, justice sera faite. Les paroles que j'ai rappelé des apôtres Paul ou Pierre nous le rappellent. l'un ni l'autre, ni aucun texte biblique n'est contre la rétribution, mais la rétribution ultime, finale, appartient à Dieu. Et on l'a aussi largement commenté tout au long de la journée. Nous pouvons donc lui faire confiance. Sur la base de cet évangile, nous pouvons suivre l'exhortation de Jésus à dépasser la logique du donnant-donnant, œil pour œil, dent pour dent, pour intégrer celle de la grâce qui se manifeste ici dans ces paroles que j'ai rappelées au début de tendre l'autre joue, par ce qu'on pourrait peut-être considérer à vue humaine comme un excès de don, comme un principe de gratuité ou comme une générosité qui ne peut que remettre en question profondément notre compréhension du monde, quitte à lui faire violence. Et je terminerai ici en citant Dietrich Bonhoeffer, qui dans son livre « Le prix de la grâce » traite aussi du sermon sur la montagne et fait remarquer que, je le cite, « ce qu'il y a de hors ligne dans le fait chrétien, c'est la croix, qui fait du chrétien quelqu'un qui a dépassé le monde et par là lui donne la victoire sur le monde. La passion dans l'amour du crucifié, voilà ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'existence chrétienne. » Je crois que Charles terminera la journée.